Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, le regard de Radio Intégration sur les dimensions spatio-temporelles auxquelles s'attachent les réalités économiques d'Afrique centrale. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Une réflexion sur la nature et la portée des interactions, les conditions de leur efficacité, ainsi que les défis qu'elles soulèvent dans la sous-région.
Tendance d'aujourd'hui et de demain.
C'est votre émission sur les prévisions, planification des ressources telles qu'élaborées par les grands et petits acteurs. 52 minutes pour exposer et comprendre les environnements où s'opèrent les choix décisionnels qui engagent l'Afrique centrale.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration.
Madame, bonjour. Messieurs, salut. Bienvenue à Tendance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, Joëlle.
Bonjour, Jean-René Mevamoko.
Monsieur Josué Nabral est à la technique. L'émission s'intitule Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est un outil radiophonique raisonné, sinon raisonnable. Un outil qui recèle mille et une occasions d'écouter la radio tout en se cultivant.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est le fait et selon le fait socio-économique. L'ensemble s'occupe de façon équilibrée à initier, à éclairer, à révéler, à interpeller et même à susciter des interactions à partir des actualités captées sur la scène d'Afrique centrale.
Bien entendu, Tendance d'aujourd'hui et de demain, édition de ce jour, reste sur ce schéma. Un schéma qui se décline en trois parties, à savoir les grands tableaux, les grandes surfaces et l'invité. Dans les grands tableaux, nous vous fournirons des éléments d'explication de ce qui se passe entre la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun et la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Dans une correspondance adressée le 11 juillet dernier au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun, la COBAC, qui est le régulateur du secteur bancaire dans la zone CEMAC, a demandé aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance et aux établissements financiers du Cameroun de s'usoir au transfert à la CEDEC des avoirs en déshérence dans leur portefeuille.
Ce sera une première partie de l'émission. Au menu de la seconde partie, Joël.
Oui, au menu de la seconde partie intitulée Grande Surface, nous irons dans les ménages et dans les marchés de Yaoundé. Nous écouterons les consommateurs et les commerçants au sujet de la hausse des prix du riz. Riz, trois lettres seulement, mais déjà 1000 problèmes répertoriés. Hausse des tromperies et des arnaques commerciales, émergence de problèmes de santé publique liés à la consommation, faiblesse de la qualité nutritionnelle, spéculation. Les citoyens ne savent plus où se range la bonne céréale qu'ils consommaient jadis. Pour en parler, consommateurs et commerçants seront au micro de Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Au micro de Tendance d'aujourd'hui et de demain également, Monsieur Luc Ndongo, administrateur civil principal au Réchel. Il est le président du comité de développement du groupement Vogamouk 2. C'est dans le département de la Mofoué à Famba, région du centre. Il est l'invité de l'émission de ce jour.
À titre de rappel, Tendance d'aujourd'hui et de demain, l'équipe de production, c'est Monsieur Josué Nabral à la technique. Je suis Joël Effa et Jean-René Meva à Mougou.
Bienvenue à tous.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, les grands tableaux.
Au Cameroun, la Caisse des dépôts et consignations, en abrégé CEDEC, est freinée dans son élan de mobilisation d'une partie des ressources qui lui sont dévolues. En cause, La récente décision de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en abrégé COBAC, demandant aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance et aux établissements financiers du Cameroun de surseoir au transfert à la SEDEC des avoirs en déshérence dans leur portefeuille. La COBAC estime que ces transferts nécessitent au préalable des clarifications sur la nature de ces avoirs et surtout la mise en place au plan communautaire d'un cadre réglementaire régissant les modalités de conservation, de gestion et de restitution de ces valeurs. Sur le coup, à la Caisse des dépôts et consignations se font ressentir des soupçons de collusion et connivence entre la Commission bancaire de l'Afrique centrale et les banques récalcitrantes. On parle d'une instrumentalisation vicieuse de la COBAC par quelques banques désireuses de continuer de jouir indûment d'une ressource qui doit être transférée à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de la loi. Des sources soutiennent qu'en réalité, les banques font de la résistance, mais au-delà de recourir insidieusement à la couverture du gendarme du secteur bancaire, la malice en vient à dépasser le périmètre de l'éthique. Or, le service public des dépôts et consignations relève de la seule souveraineté des États et n'a jamais fait partie des matières transférées à la communauté pour que la COBAC en vienne à vouloir y réglementer. La COBAC ne pourra s'intéresser à la SEDEC que lorsque celle-ci va effectuer des opérations de banque, apprend-on de nos sources. Celle-ci affirme que l'institution est pour le moment en phase de mobilisation des ressources qui lui sont dévolues et certaines ne doivent pas entraver ce processus en instrumentalisant la COBAC.
D'où une question, d'où vient-il que ce soit maintenant que la COBAC intervienne? La SEDEC a été créée en 2008 et le décret sur les modalités de transfert a été signé en décembre 2023. C'est au moment où beaucoup de banques se sont manifestées que les banques recalcitrantes recourent à la COBAC pour que celle-ci sorte de sa mission réglementaire. Alors, on dit que c'est vicieux. S'insurge une source de tendance d'aujourd'hui et de demain. La construction communautaire ne saurait se faire harmonieusement par de tels agissements, clame notre source avant de trancher. Les fonds déjà transférés resteront là où ils sont parce que c'est en vertu de la loi qu'ils ont été transférés. La COBAC n'a pas vocation à entraver des processus nationaux dûment encadrés par la loi au prétexte qu'on prépare une réglementation communautaire. La décision de la COBAC vis-à-vis des avoirs en déshérence dans les établissements financiers du Cameroun soulève en effet réactions et interrogations diverses. Dès lors que le processus de transfert des avoirs est déjà engagé et que certains organismes financiers, y compris la BEAC nationale, la Banque des États de l'Afrique centrale, ont déjà signé des accords ou conventions de transfert des avoirs en leur possession, comment comprendre ce timing et des avoirs déjà effectivement été transférés à la SEDEC? La SEDEC va-t-elle les conserver ou les retourner aux établissements financiers qui ont exécuté les transferts?
Si l'on admet qu'il faut réglementer et bien encadrer ces avoirs transférés à la SEDEC afin que cette dernière ne gère pas l'argent qu'elle reçoit comme la plupart des entreprises publiques ou que l'État central lui-même ne soit pas tenté de venir siphonner les réserves de la SEDEC pour financer son train de vie. De même, il est également bien d'attirer l'attention des parties prenantes sur les risques que font peser ces transferts de valeur sur la stabilité financière de la CEMAC s'ils ne sont pas bien encadrés. À ce titre, des experts rappellent que le risque sur la stabilité financière fut l'un des arguments forts des banques au tout début de cette affaire pour tenter de freiner, voire même empêcher le transfert des 10 avoirs après la mise en place de la SEDEC. On peut donc aussi se demander si dans cette affaire, les banques ne sont-elles pas plus concernées par leur propre suivi que par la nécessité de préserver la stabilité financière de la région. Tout laisse penser en effet qu'il s'agit pour nos banques de sauvegarder ces avoirs dans leur portefeuille afin de continuer à tourner avec et de renforcer leur propre bilan. Dans un environnement où les banques sont frileuses ou rechignent à jouer pleinement leur rôle traditionnel pour accompagner le financement de l'économie réelle et des PME en particulier, ces avoirs constituent pour elles une véritable épargne longue, moins chère et gratuite, une manne à laquelle elles s'accrochent et fructifient depuis tant d'années à leur seul intérêt et profit. Elles ont bien compris que sans ces avoirs, beaucoup d'entre elles vont être obligées d'augmenter leur capital et ou, enfin, faire le métier réel de banquier qui est attendu d'eux à leur risque et péril.
En rappel, la loi du 14 avril 2008 régit les dépôts et consignations au Cameroun, ainsi que du décret du Premier ministre du 1er décembre 2023, créé en 2008 mais opérationnel seulement en janvier 2023, soit 15 ans plus tard. La SEDEC a pour mission de recevoir, de conserver et de gérer certaines sommes et certains avoirs publics ou privés, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le délai fixé pour le transfert de ces fonds à la Caisse des dépôts de consignation a expiré depuis le 31 mai 2024. Certaines sources avancent le chiffre de 20% des dépôts actuels, environ 1500 milliards de francs CFA qui échapperont au contrôle des banques. Les dépôts bancaires se chiffrant à plus de 7723 milliards de francs CFA à la fin décembre 2023 selon les données de l'ACOBA. Dans la sous-région Afrique centrale, des caisses de dépôts et consignations fonctionnent déjà au Gabon et au Congo-Brazzaville. Au Congo, la Caisse de dépôt et de consignation a été créée par une loi en date du 6 janvier 2014. Elle est placée sous la surveillance du Parlement. Elle gère les activités concurrentielles et intervient en qualité d'investisseur institutionnel. L'article 29 de la loi du Congo du 6 janvier 2014 stipule que tout avoir sans maître détenu par des banques privées et les compagnies d'assurance est immédiatement transféré à la Caisse des dépôts et de consignation. L'article 35 ajoute que pour le seul contrôle des activités bancaires et financières, la commission de surveillance peut recourir au contrôle de la commission bancaire de l'Afrique centrale, à savoir la COBA. Les dispositions transitoires et finales de la loi congolaise indiquent à l'article 37 que les fonds et valeurs actuellement en dépôt ou en consignation au trésor public ou dans les établissements bancaires et autres établissements financiers ou de crédit, en raison d'une disposition législative ou réglementaire antérieure, doivent être reversés à la Caisse des dépôts et de consignation. Au Gabon, la Caisse des dépôts et de consignation est créée sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial par ordonnance du 12 août 2010. Ses domaines de spécialisation sont les services bancaires, les dépôts et consignations, la promotion immobilière, l'investissement et financement, les collectivités locales et l'énergie et développement durable. La Caisse des dépôts et consignations du Gabon a pour mission de soutenir les politiques publiques en finançant les besoins structurants et les priorités nationales, notamment la mission première de mobilisation de l'épargne et sa sécurisation, et aussi de transformer les dépôts en emplois productifs en exerçant les métiers d'investisseurs et de prêteurs de long terme. Enfin, selon la Banque africaine de développement, les caisses de dépôt et de consignation jouent un rôle unique dans la communauté de l'investissement financier à long terme du fait de leur mode opératoire qui consiste à gérer l'épargne réglementée qui leur est confiée par des États pour la transformer en investissement dans les secteurs d'intérêt public comme les infrastructures, les entreprises ou le logement. À cet effet, elle joue un rôle important d'investisseur institutionnel sur le marché financier domestique, dont elles deviennent de fait un animateur important. Au-delà de leur rôle d'investisseur de long terme dans les secteurs d'intérêt général, les caisses de dépôt et consignation peuvent catalyser des capitaux privés en cofinancement de leurs activités. Au Cameroun, il est indéniable que la Caisse de dépôt et de consignation n'est pas très bien vue par un puissant lobby bancaire qui a su mobiliser pour sa cause le gendarme du secteur des banques dans la sous-région Afrique centrale. Reste que la COBAC joue sa crédibilité au regard de l'existence des caisses de dépôt et de consignation au Gabon et au Congo depuis 14 ans pour la plus ancienne. Pourquoi n'avoir donc pas édicté une réglementation communautaire dès lors? Comment comprendre le besoin d'une réglementation communautaire régissant les modalités de conservation, de gestion et de restitution de ces valeurs, soit le prétexte pour suspendre les transferts de fonds des banques vers la SEDEC au Cameroun seulement? Filière cacao, 1500 milliards de francs CFA à la portée des paysans cette année. Lors d'une récente réunion d'information entre les membres du gouvernement camerounais concernés par la question de l'entrée en vigueur le 30 décembre 2024 du règlement européen visant à lutter contre la déforestation et la délégation de l'Union européenne au Cameroun, le ministre du Commerce, Luc Malgua Mbalga Atangana, a exposé les chiffres de la filière cacao. 1500 milliards de francs CFA de revenus directs pour les producteurs sur une seule campagne.
Selon les experts, l'augmentation de la production cacaoyère aurait un effet multiplicateur sur l'ensemble de l'économie. Cela stimulerait l'emploi, la consommation et les investissements dans les zones rurales. Passer de 300 000 à 500 000 tonnes par an injecterait 2500 milliards de francs CFA dans l'économie. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbalga Atangana, ne cache pas son enthousiasme. Tout cet argent rentrera directement dans le circuit national. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie, vante le Mincommerce qui parie sur les retombées de cette embellie et sur les enjeux de transformation de tout le pays. L'augmentation de la production de cacao a, dit-il, un effet domino sur l'ensemble de l'économie. Cela créerait des emplois, stimulerait la consommation et pourrait même attirer des investisseurs étrangers. Faut-il le rappeler, 78% des exportations de cacao du Cameroun sont destinées vers l'Union européenne. Les enjeux du règlement européen sont donc importants pour la filière cacao dans un contexte de régulation européenne accrue où il faut concilier ambition économique et exigence environnementale.
Oh,
tendance d'aujourd'hui et de demain, les grandes surfaces.
Riz, toilettes, 1000 problèmes déjà répertoriés. Hausse des tromperies et des arnaques commerciales, émergence des problèmes de santé publique liés à la consommation, faiblesse de la qualité nutritionnelle, spéculation. Les citoyens ne savent plus où se trouve la bonne céréale qu'ils consommaient jadis.
Sourire devant un plat de riz, c'est un bonheur qui n'a pas de prix ces temps-ci. Au-delà de la mine rieuse et du regard pétillant qu'abordent infailliblement Dame Régine et Sama, on vient juste d'apprendre que le kilogramme de riz est déjà hors de prix à Yaoundé. 600 à 800 francs CFA, c'est comme ça partout. Il n'y a pas assez de riz et quand vous en trouvez, on vous vole sur la mesure, renseigne cette mère de 7 enfants. Témoignant d'un certain niveau de familiarité avec plusieurs commerçants du marché d'Onfou dans le département de la Mofoué à Famba, l'expérience d'une ménagère n'est pas satisfaisante. Bien au contraire, elle est relatée négativement. Ils vendent leur bon riz au noir quand cela les arrange. À défaut, ils vous proposent du riz de moindre qualité au prix du bon en prétendant que l'affaire n'est pas à leur niveau, explique-t-elle. Sur l'aspect gustatif, de nombreux consommateurs se plaignent des variétés de riz proposées sur le marché. Les gens viennent vers nous pour nous exposer des problèmes de mastication ou de déglutition. Ces riz vendus partout sont peu appétissants, sans aucun goût et difficilement identifiables par les consommateurs, glisse Simon Galjop, président et porte-parole du collectif des organisations des consommateurs du Cameroun.
Comment les citoyens font-ils face à cette situation? On commence à le savoir et ce n'est guère réjouissant. Chez le marchand, les femmes achètent désormais le riz au gobelet pour faire semblant de bien voir ce qu'on prend, car dans le sac, ils dissimulent déjà du riz avarié. Du coup, la soupe du soir est de plus en plus liquide. Seuls quelques grains sont autorisés à flotter sur l'eau dans la marmite, souffle Régine et Sam.
Sur la scène commerciale, tous les moyens sont bons. Le tableau présente un marché du riz pour le moins contrasté, où des pratiques peu défendables se perpétuent au nom de l'impératif de rentabilité. La preuve, fin juin dernier, dans un entrepôt situé dans l'arrondissement de Yaoundé 3, la délégation régionale du commerce du centre et de la gendarmerie nationale ont mis la main sur un réseau de riz en sachage de riz avarié. Environ 4000 sacs de riz prêts à être commercialisés ont été saisi. À Douala, un trader explique, chiffre à l'appui, comment le marché du riz a de façon très opportuniste provoqué l'envolée des prix. Dès qu'ils ont su que la demande devient plus forte que l'offre, des commerçants ont fait passer le sac de 25 kg de 13 000 à 17 000 francs CFA, trahit-il. Dans la même ville, le gérant d'une supérette de proximité explique l'absurdité de sa situation et comment la centrale d'achat de riz de son enseigne lui impose des prix plus élevés que ceux de ses concurrents. Mais il découvre au cours d'une discrète enquête dans les rayons d'un supermarché voisin que la baisse n'est pas répercutée par certaines grandes enseignes qui profitent donc de l'occasion pour augmenter substantiellement leur marge. Dans cette ambiance, les petits détaillants ne font qu'amplifier une appréciation générale. Il n'y a pas assez de riz. Aujourd'hui, c'est toutes les variétés et origines de riz qui sont concernées par des ruptures d'approvisionnement. À la différence des crises anciennes, il y a un problème d'approvisionnement ou de couverture. L'offre est insuffisante pour couvrir la demande courante de riz. Moralité de l'histoire, les profits captés d'un côté de la chaîne doivent immanquablement être payés de l'autre par les consommateurs. Du coup, tous les prix s'envolent, tentent de répondre une source au ministère du Commerce. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça se débloque et qu'on soit réapprovisionné parce qu'on ne sait pas trop où on va, ajoute notre interlocuteur.
Au passage, on a vite deviné que la situation actuelle convoque de multiples interactions commerciales. Sur le terrain, chacun se débrouille, arnaque, juge, observe, esquive, dénonce, déteste et rejette. La grande distribution du riz dit au fruit des prix toujours plus bas et rend systématiquement responsable des hausses les demi-grossistes, lesquels retournent l'accusation vers les petits détaillants. Qui dit vrai ? Personne peut-être. Le 12 avril 2024, le ministre du Commerce, Luc Malgua Mbaga Tangana, a annoncé par le biais d'un communiqué de presse une baisse significative du prix du riz au consommateur final. Les équipes chargées du contrôle au sein du ministère du Commerce ont reçu des directives précises pour garantir une application rigoureuse et efficace de ces nouveaux tarifs sur le terrain dans l'intérêt des consommateurs. Bien entendu, l'effet de cette démarche n'est pas de dissiper le danger qui presse ou de résoudre le problème posé. Bien au contraire, elle représente une sorte d'aveu de déguiser le danger ou le problème, de les mettre en quelque sorte à distance et ainsi de vivre avec eux aussi longtemps du moins qu'ils demeurent chroniques et ne connaissent pas d'aggravation brutale, commente Dr Jude Batum, économiste. Écoutons à présent quelques consommateurs et commerçants rencontrés dans les marchés de Yaoundé. Ils sont au micro de Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Je ne connais pas qui est le riz camerounais qui ne l'est pas. On connaît les riz parlants, non. Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Alors, je connais le riz brisu, le riz mémé. Si vous n'êtes pas au courant d'un produit, vous allez le consommer comment? Il faut d'abord informer à la population qu'on prenne connaissance même déjà du produit avant de le consommer.
A pas un bon goût. Je suis camerounaise. Mais je préfère le riz thaïlandais. Alors, c'est bien. Quand vous préparez par exemple le riz ndom, camerounais ndom, ça n'a pas le goût. Ça dure trop au feu, ça prend le gaz, ça dure trop et puis ça ne gonfle pas bien.
Depuis un certain temps là, mon niveau ne vient plus avec. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait même déjà 3 mois aujourd'hui. Il sortait du nord-ouest. C'était le riz de ndom rice. On cultive ça là-bas.
Nous le vendons, mais pas chaque jour. Il y a une période qu'on vend ça, dans la période de quand c'est en abondance et parfois sous la demande du client. Parce que quand je suis commande, là maintenant je vais au magasin, je prends peut-être en fonction de ce don, en 5 kilos et en 25 kilos. Oui. Ça ne gonfle pas. Par exemple, quand tu prends le riz concurrent, quand la dame prend son 1 kilo, elle prépare, tous les enfants mangent. Pendant ce temps, ce riz camerounais, ça colle et ça ne remplit pas la marmite. Tu sais que le riz, maintenant, c'est la seule nourriture que les gens mangent. Il faut que ça gonfle. C'est le 25 kilos de ça, c'est 14 000 francs, 15 000. Alors, à partir de 10 000 francs, tu as le riz indien, un 25 kilos. Tu vas aller chercher quoi pour acheter un 25 kilos à 15 000? Bon, ce que je peux dire aux Camerounais qui cultivent le riz, c'est quoi? Lorsque vous produisez le riz, comme en 2023, faites l'effort de le polir et laissez que ça passe même 2 ans avant de mettre dans le marché. Là, ça va répondre aux critères maintenant de l'aménager. Et il y a aussi un problème, du fait que nous ne détaillons pas. C'est tout ça parce que le poids du riz camerounais, ça ne répond pas à nos critères. Parce que quand tu prends un sac de riz thaïlandais, on dit 50 kilos. Tu vois 50 kilos plus même 3 kilos. Alors que le riz camerounais, c'est mesure. Parfois, c'est moins. On ne sait même pas quel genre de balance ils utilisent.
Parfois, il y a des importateurs véreux. Quand ils se rendent compte que leur riz est apprécié sur le marché, ils profitent de ça pour augmenter le prix. Donc, en dehors de la pandémie, qui a été vraiment significative, où il y a eu une augmentation significative, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. L'État devrait sanctionner rigoureusement, travailler d'arrache-pied pour pouvoir contrôler au mieux les importateurs. Parce que les importateurs sont contrôlés sur les prix que les importateurs nous donnent, sont respectés tels que l'État voudrait. Parce que si l'État voudrait que le dernier consommateur paie le riz par exemple à 9 500, alors l'État devrait obliger par exemple l'importateur à vendre le riz à 8 500.
Ça coûtait 10 000, 9 000, 8 500. Aujourd'hui, 25 kilos de riz, ça coûte 18 500, 17 500. On ne s'en sort pas. Tous les riz ici, c'est 27 500. Le riz quitte de 21 500 à 27 500. On vend le kilo à 600, on ne s'en sort pas. Tu payes un sac de riz. Tu vends à 600, ça sort 30 000. Tu payes l'emballage. Tu payes le brouettier. Le prix de revient. Pas de bénéfice.
Moi, je consomme d'ailleurs mes mets cassés que j'achetais à 15 000, parfois 14 500 dans les petits marchés, les supermarchés à 15 000. Nous recouvrons déjà ça à 17 000 dans certaines surfaces et à 16 500 dans les marchés comme ceci. Oui, et les autres riz ordinaires que nous achetons le kilo à 400, on recouvre déjà à 500 et à 600 parfois 700 même.
Le mémé cassé, avant il coûtait 500 francs, depuis un certain temps c'est monté à 800 francs. Et c'est très difficile pour nous, c'est difficile, le bas peuple d'en consommer. Jour là, le coût de tout augmente et puis il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, comment est-ce qu'on fera pour nourrir la famille? Ça devient très compliqué.
À notre niveau vraiment, on saurait vous donner d'autres explications. Quand nous nous rapprochons de nos grossistes, les grossistes nous font comprendre que le prix du riz ne fait qu'augmenter. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi.
C'est un truc qui doit concerner les importateurs et le gouvernement camerounais. Nous nous font comprendre que le dédouanement est cher et qu'il y a pénurie du riz et que les cultivateurs même ne cessent de leur donner le riz un peu plus cher. Que le gouvernement camerounais se rapproche auprès des importateurs, qu'ils essayent de s'asseoir et mieux parler. Si l'État camerounais ne parvient pas à s'entretenir et trouver des solutions avec des importateurs, il n'y aura jamais de baisse sur le marché. Les commerçants sont gênés, sont frustrés, parce que parfois nous manquons même des factures. Lorsque tu manques la facture, on vous demande de venir au bureau. Et quand vous venez au bureau, ça n'aboutit à rien. On dit que l'huile, c'est à 1100 francs, le vin litre, c'est 22 000. Or, ce n'est même pas le prix d'achat. Même actuellement, lorsque nous partons auprès des importateurs, des grossistes, des gens qui prennent même les huiles dans la Socapa, à la direction même, ce n'est même pas le prix d'achat qu'ils nous donnent. Vous voyez que je me dis que ça c'est une comédie même.
Et voici le moment consacré à l'invité. Ce jour, Tendance d'aujourd'hui et de demain reçoit Monsieur Luc Dongo. L'homme est dans le commandement territorial depuis des années. Et pour fructifier la somme de ses expériences, en tant que chef de terre, il est à la tête du comité de développement Vok Amouk 2, c'est dans l'arrondissement d'Mfou, département de la Mefoa-Famba, région du centre. Bonjour monsieur et merci de vous présenter à nos auditeurs.
Merci, je suis monsieur Luc Ndongo, administrateur civil principal hors échelle. Je suis dans le commandement territorial. Actuellement, je suis conseiller technique numéro 3 au ministère de l'administration territoriale. Après avoir occupé des postes de sous-préfet, notamment 7 postes de sous-préfet et 3 postes de préfet, notamment de Haut Plateau, de la Vina et du Onkam. C'est suite à ma cooptation par les notabilités coutumières de mon village, qui se trouve être le groupement Vok Amouk 2, qui comprend 10 chefferies de 3e degré. Donc, cette notabilité coutumière m'a donc coopté pour faire de moi le porte-parole du groupement, le président du comité de développement du groupement. Donc, dans le cadre des activités de ce comité de développement, nous avons jugé utile de lancer cette année 2024 un festival dénommé Festival Sport, Vacances, Culture, Tourisme, avec plusieurs objectifs. Premier objectif, de rassembler la jeunesse du groupement pendant la trêve scolaire et l'amener à des activités saines, lui épargnant certains fléaux que nous avons observés dans les années antérieures dans certains villages, notamment la dépravation des mœurs, la consommation des stupéfiants, la délinquance juvénile. En dehors de ça, il y a l'émulation sportive qui est là. Et sans oublier la rencontre entre tous ces jeunes qui permet la lien de famille, la lien de solidarité entre les jeunes d'un côté, entre les jeunes et les parents que nous sommes. Il est aussi question de plonger nos jeunes, de les ressourcer dans notre identité culturelle, dans notre tradition. Le festival comprend un certain nombre d'activités, telles les danses traditionnelles, la gastronomie traditionnelle et d'autres rites et coutumes dont les jeunes devront s'abreuver à nouveau. Et enfin, la promotion du tourisme, des sites touristiques de notre contrée, notamment cette confluence entre deux grands fleuves, deux grands cours d'eau, notamment la Mofou et l'Oignon, dont notre village est situé à l'embouchure des deux fleuves. Et c'est un spectacle, un très bon spectacle qu'il faut visiter. Et il y a ceci de particulier que sur au moins 5 kilomètres, les deux eaux du cours d'eau ne se mélangent pas. Et on les distingue de visu. C'est après peut-être 5 kilomètres que les deux eaux se mélangent et pour faire un seul fleuve.
On vous a entendu parler du comité de développement. Est-ce que nous pouvons avoir quand même un tableau de ce qu'a fait le comité de développement jusqu'ici?
Alors, nous avons commencé nos activités en janvier, mais déjà dès novembre 2023, nous avons réfectionné le pont sur la rivière Mba. Parce que nous étions en pleine saison. Les deux routes étaient coupées et il a fallu, parce que notre village est à deux voies d'accès, dont les deux voies d'accès étant pratiquement coupées à cause du mauvais état de la route, nous avons mobilisé près de 200 jeunes pour aller réfectionner le pont sur la rivière Mba. En moins de 2 heures, la circulation était déjà fluide. Bon, et à cela, nous avons participé à toutes les activités lors des fêtes nationales, notamment le 8 mars, les activités sportives, le 11 février, le 20 mai. Nous avons été actifs. Nous avons participé parce que nous voulons montrer l'exemple aux jeunes. C'est ainsi que des activités agro-pastorales ont été menées, notamment des parcelles de forêt qui ont été défrichées pour faire de nouveaux champs. Et nous avons assisté à ces activités-là. Et dans le cadre de ce festival qui est en cours à l'ouverture, ceux qui étaient à l'ouverture ont vu des choses qu'on n'avait plus jamais vues depuis fort longtemps dans notre contrée, à savoir l'accueil qui a été réservé à monsieur le préfet du département de la Mofou et Famba, à la personne de son premier troisième adjoint, qui a été porté sur une chaise à porteur traditionnel. Beaucoup n'avaient jamais vu ça. Et nous comptons remettre ça à la clôture. Pendant la cérémonie qui a suivi, tous les invités à la tribune ont dégusté les plats traditionnels. Et ceux qui étaient là ont vu un bâton de manioc qui mesurait plus de 30 mètres. Entre autres, c'était un mets traditionnel que beaucoup de gens ont dégusté. Je ne vais pas les citer tous ici, mais il y avait le mbom-pom, le saka, l'inkonda. Bon, ceux qui maîtrisent le bétis savent de quoi il s'agit, le fos. Et tout le monde a été satisfait. Et nous avons intégré, c'est un sport traditionnel tel que l'ongok. C'est un sport traditionnel que nous voulons faire vivre. Beaucoup de danses traditionnelles aussi. Les Wanga, le Bol, le Nyang et autres qui seront exécutés par les jeunes. Ça, c'est pour permettre à nos jeunes de retremper dans le moule traditionnel. Nous sommes africains, et c'est vrai, nous sommes déjà ouverts au monde à travers le village planétaire qui est devenu le monde, mais nos jeunes doivent rester ancrés dans la tradition.
À vous écouter, on a repéré l'usage d'au moins 3 verbes. Vous avez parlé de renaître, vous avez parlé de retremper, vous avez également parlé de se ressourcer, voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle dynamique que le président du comité de développement que vous êtes entend impulser au niveau du groupement Vokamou 2, ou alors c'est une continuité dans le schéma ou alors le dispositif qu'on a connu par le passé?
C'est une nouvelle dynamique. C'est un nouvel essor. Puisque dans le passé, bon, on se contentait d'un championnat de football. Maintenant, nous avons ajouté la dynamique culturelle, la dynamique touristique. C'est-à-dire, il est question de permettre au groupement de retrouver une visibilité. Et à travers non seulement le pays, mais à travers le monde, qui est devenu un village planétaire. Notre chaise à porteur a fait le tour du monde. Les gens se sont demandé, ah bon, donc, il y a des coutumes comme ça, par exemple. Donc, c'est cette nouvelle dynamique que nous comptons impulser. Nous voulons que notre groupement ait de la visibilité, qu'on sache que nous sommes là. Nous avons beaucoup de choses à apporter au village planétaire que le monde.
Ceux qui lisent votre déploiement et vos activités en arrière-plan, ceux qui vous prêtent certaines intentions, qu'est-ce que vous répondez à cela?
Vous savez, quelqu'un disait que ceux qui sont actifs ont en face de trois catégories de personnes. Ceux qui veulent faire la même chose, mais qui ne peuvent pas le réussir. Ceux qui ne peuvent même pas le faire. Et ceux qui ne veulent rien du tout. Je pars d'une expérience personnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été, bon, je suis diplômé de l'ENAM depuis, cycle A depuis 1990. J'ai été sous-préfet dans 7 unités administratives. J'ai été préfet dans 3 unités administratives. Ça fait un cumul d'expérience. Donc j'ai vu beaucoup de choses partout où j'ai servi, que ce soit à l'ouest, ce soit au sud, ce soit au littoral, ce soit à l'extrême nord, ce soit au centre du Cameroun. Donc j'ai vu beaucoup d'expérience. Et c'est cette expérience-là que je voudrais faire profiter à notre jeune génération. C'est juste, de ma part, une contribution. Hein, parce qu'à partir du moment où je crée un comité de développement, ça signifie que je voudrais apporter un sang neuf, un souffle nouveau à mon village, pour qu'il puisse bénéficier de toutes les expériences que j'ai concrétées à travers tous les postes que j'ai occupés.
En guise de rappel, il faut dire que le groupement Vogamo 2 est celui qui inclut les villages Ndangang 1, Ndangang 2, Ndangang 3, Nkolmava, Nkolmofou, et que sais-je encore. Alors, quelle est votre touche particulière quand en termes de rassemblement de toutes ces populations, étant entendu que le groupement est réputé être l'un des plus peuplés du département de la Mofoafamba?
D'abord, l'accessibilité, accessible par tout le monde. Ma porte est largement ouverte. Je reçois tout le monde. Quand je suis au village, c'est au moins au bas mot une centaine de personnes que je reçois toute la journée. Donc je suis ouvert à tout le monde vient. Et je suis ouvert en cause de tout et de rien. Quand je peux aider, j'aide. C'est ainsi que dernièrement, j'ai offert 2 motos à 2 paroisses, paroisse catholique et paroisse protestante. Hein? Bon, j'ai contribué aux frais d'enterrement d'une famille à concluant de 150 000 francs, vous avez suivi. Bon, pour ce festival, bon, ma femme et moi, nous avons mis nos économies à concurrence d'un million comme caution à ce festival. Donc, nous contribuons, nous apportons notre modeste contribution au développement du village. Et c'est ça qui fait à ce que les gens, bon, trouvent que nous faisons beaucoup et que beaucoup auraient pu faire mieux. Mais déjà, ils sont contents de ce que nous faisons. Ils estiment que s'il y a même moyen de faire mieux, toute leur prière, c'est que nous puissions avoir les moyens de faire mieux.
Et eu égard au calendrier que j'ai sous les yeux, le festival et le championnat s'achèvent le 18 août 2024. Voilà, bon, peut-être c'est... sauf cas de force majeure. Mais si c'est donc à titre indicatif... on ne peut pas encore parler des bilans à l'heure qu'il est, mais seulement pour une première édition. Pour une première édition, est-ce que vous avez une, on va le dire de façon prosaïque, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe sur le terrain?
Un seul mot, c'est l'affluence. Allez au village chaque mercredi. Chaque dimanche, vous allez voir l'affluence des jeunes. Les jeunes partent de Yaoundé et de Mbalmayo. Même les équipes viennent de Mbalmayo et les joueurs viennent de Yaoundé. Tous affluent en Ndangang 2. Et c'est une affluence monstre chaque rencontre de match. Donc nous sommes satisfaits parce que cela signifie que nos jeunes ont adhéré au projet qui leur a été présenté. À savoir que pendant la trêve scolaire, elle doit se livrer à des activités saines et que c'est les deux rencontres sont les mieux venues en ce moment. Et ça invite aux jeunes de se livrer à d'autres activités qui amènent leur perdition. Donc, je suis satisfait de l'affluence qu'il y a lors de ces rencontres, chaque mercredi, chaque dimanche, au niveau du stade de l'école publique de Ndangang 2.
Nous allons sortir de cet entretien. Alors, le le message au-delà de l'administrateur civil hors échelle que vous êtes. Maintenant, fils d'Ndangan que vous êtes, fils du groupement Vogamour 2 de façon large, quel message lancez-vous à l'endroit de ceux qui vous écoutent?
Je lance un vibrant appel à tous mes frères et sœurs du groupement Vogamour 2 qui viennent pour que notre mouvement soit plus fort. Parce que notre devise, comme vous l'avez vu, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est-à-dire que toute la jeunesse, toute l'élite de notre département, de notre arrondissement, notre village surtout, de notre village Ndangan 2, un groupement Vogamour 2, que toute l'élite, toutes les forces vives viennent pour qu'à l'unisson, nous développions notre groupement, notre village. Parce que ça, parce que le développement passe aussi par les activités sportives, par les activités culturelles, par les activités touristiques. C'est ces rencontres qui ont lieu chaque semaine entre nos jeunes de multiples horizons. Ça permet donc que les jeunes se rencontrent et se passent les contacts et sont faciles à rassembler autour de certaines dynamiques. Donc le message que je lance, c'est que toutes les forces vives de notre groupement, Vogamour 2, et je salue déjà la prévoyance de notre chef de groupement, Jean-Pierre Amougou, au passage. Donc je lance un vivant appel à toutes les forces vives, ceux de groupement, les patriarches, les élites intérieures et extérieures, que nous nous retrouvions ensemble, que nous nous mettions ensemble pour développer notre village, qui est notre groupement, Vogamour 2.
Oui. Bon, dernière question. Le quotidien d'un ancien préfet, quel est-il?
Bon, il se trouve que je ne suis plus sur le terrain. Je suis maintenant en fonctionnaire de cabinet. Je suis en service au cabinet du ministre comme conseiller technique. Donc, il me coûte. C'est un dossier sensible qui demande une expertise du terrain. Quelqu'un qui maîtrise le terrain. Quelqu'un qui connaît le dossier. Parce que le dossier qui me coûte, c'est le dossier que j'ai déjà eu à gérer quand j'étais sur le terrain. Que ce soit les terrains qui concernent la chefferie traditionnelle, soit les problèmes des religions, des églises. Bref, des dossiers très très sensibles qui demandent une expertise. Hein, une expertise au commis de l'État. Donc, dans mon quotidien, c'est que les dossiers que le ministre me cote, bon, je lui fais des comptes rendus là-dessus, des missions que je fais sur le terrain. Je fais des descentes sur le terrain pour gérer telle ou telle situation. Je lui fais des rapports. Je reste à l'écoute.
Comité de développement du groupement Vogamour 2, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est la devise, n'est-ce pas? Et nous retenons donc au sorti de cet entretien que vous restez disponible pour recevoir tous les fils et filles du groupement Vogamour 2, qui, je le rappelle, est une contrée qui regroupe une dizaine de villages au sein desquels vous voulez impulser une nouvelle dynamique. Une fois de plus, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Je vous remercie. Un tombe man pour un mot. Un manque d'une malamba. Des sentiments si mal ne sont pas tout nazes. Il s'agit de Janice Bouy. L'enfant noir.
C'est avec cet extrait de Tanus Foué que nous mettons un terme à l'édition de Tendance d'aujourd'hui et de demain de ce jour. Retenez que les principales focales de l'émission ont permis de faire le point sur la brouille entre la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun et la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Il y avait également du cacao avec les 1500 milliards prêts à être injectés cette année dans le circuit économique du Cameroun via les paysans. Le riz était aussi au menu, bien qu'il soit cher et de plus en plus rare sur les marchés camerounais. En posture d'invité, il y avait Monsieur Luc Ndongo. Il est à la tête du comité de développement du groupement Vogamour 2. C'est dans l'arrondissement de Mfou, département de la Mofou et Afamba, région du centre. Tendance d'aujourd'hui et de demain du côté de la technique, nous étions assistés comme toujours par Josué Nabral, Jean-René Meva Amougou et Joël Effa au micro de présentation. Comme à l'accoutumée, nous vous invitons à rester connectés sur nos différentes plateformes en ligne. Nous serons ravis de vous compter parmi les nôtres pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la prochaine occasion, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, le regard de Radio Intégration sur les dimensions spatio-temporelles auxquelles s'attachent les réalités économiques d'Afrique centrale. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Une réflexion sur la nature et la portée des interactions, les conditions de leur efficacité ainsi que les défis qu'elles soulèvent dans la sous-région.
Tendance d'aujourd'hui et de demain.
C'est votre émission sur les prévisions, planification des ressources telles qu'élaborées par les grands et petits acteurs. 52 minutes pour exposer et comprendre les environnements où s'opèrent les choix décisionnels qui engagent l'Afrique centrale.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration.